Vous écoutez, on lit pour vous.
Handicap et intelligence artificielle se nourrissent-ils mutuellement? Un texte de Muriel Mack-Sang et de Jean-Noël Nikiema, paru le 22 mai 2025 dans La Conversation. Les personnes en situation de handicap, PSH, constituent 16 % de la population mondiale et 27 % de la population canadienne. Malgré ce poids démographique non négligeable, la question se pose de savoir si les PSH sont systématiquement incluses dans les réflexions concernant les avancées technologiques des applications d'IA en lien avec le handicap. Je suis professeur en santé mondiale à l'École de santé publique de l'Université de Montréal, ESPUM. Ma spécialité concerne les enjeux d'équité et d'inclusion des PSH en matière de santé. En échangeant avec mon collègue Jean-Noël Nikiema, professeur en santé numérique et en analyse des mégadonnées, nous nous sommes interrogés sur les interactions entre le handicap et l'intelligence artificielle, IA. Si, au premier abord, l'évidence d'une synergie entre ces deux domaines nous semblait indéniable, il est rapidement apparu qu'il fallait aller au-delà des intuitions et s'appuyer sur des données probantes pour étayer cette idée. Nous avons, dans ce contexte, mené un bilan des connaissances scientifiques sur le sujet pour synthétiser la littérature existante et identifier les lacunes quant à l'intersection entre les applications en IA et l'inclusion des PSH. Nous avons également interviewé 16 personnes, dont des experts en IA et des PSH entendantes et malentendantes. Notre but était de mieux comprendre leurs perspectives en tant que concepteur d'applications en IA d'une part et à titre d'utilisateur en situation de handicap d'autre part. Lors d'un webinaire de restitution des données, nous avons aussi recueilli les retours d'une quarantaine de personnes provenant des secteurs académiques, de la recherche et d'organisations de PSH pour identifier des priorités de recherche. Les résultats de notre étude nous ont révélé trois éléments. Le diagnostic au détriment des besoins. Premièrement, sur les 84 recherches incluses dans la revue de la portée que nous avons réalisée concernant l'intersection entre les applications en IA, la recherche et le développement en santé et les PSH, la majorité des recherches ont été menées en Amérique du Nord, principalement aux États-Unis d'Amérique, Canada, en Europe, Grande-Bretagne, France et en Asie, Chine, Inde. Peu d'études sur ces trois concepts ont été menées ailleurs dans le monde, notamment en Amérique du Sud et en Afrique, alors que 80 % des PSH résident dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. Lorsque les PSH étaient étudiés, les personnes avec une incapacité motrice et cognitive étaient largement représentées et de surcroît dans un contexte clinique ou hospitalier. La plupart de ces études étaient donc intéressées à prédire des problèmes de santé ou de diagnostics médicaux. Une minorité d'entre elles était intéressée aux réalités des personnes déjà en situation de handicap, notamment à celles qui vivent chez elles, à domicile, et non dans des structures sanitaires. Pourquoi le handicap et les personnes en situation de handicap? Deuxièmement, les entretiens avec les experts et les PSH en santé ont mis en exergue le manque de reconnaissance et de connaissance des experts en IA concernant les besoins des PSH. Nos résultats tendent à montrer que les experts en IA sont intéressés à mieux connaître les besoins des PSH. L'inverse est également vrai. Les PSH souhaitent mieux faire reconnaître leurs besoins auprès des experts en IA. Malgré cette ouverture, les secteurs de l'IA et du handicap collaborent peu, voire pas du tout. Le travail en silo semble prévaloir. De leur côté, les chercheurs sont nombreux à se demander s'il est vraiment pertinent de considérer le handicap en tant que dimension de biais systématique. La pensée dominante opère plutôt le raisonnement suivant. Si un outil est développé de manière suffisamment responsable, elle servira à tout le monde et donc, par ricochet, au PSH. De l'IA utile, oui, mais non accessible. Notre troisième constat est toutefois sans appel. Les PSH qui utilisent des applications en IA pour retrouver leur chemin ou entendre ce qui se passe dans leur environnement, par exemple sur un téléphone, une montre intelligente ou un ordinateur, ont toutes mentionné le manque d'accessibilité des interfaces d'IA qui ne sont pas adaptées à leurs besoins. Le principal enjeu de l'IA pour les personnes malvoyantes, par exemple, ce n'est pas tant l'IA elle-même, ce sont les interfaces. Car même s'il existe des synthèses vocales dans les applications, pour les activer, il faudrait les voir, mentionne un participant en situation de handicap visuel d'un des groupes de discussion. S'ajoute à ce constat de multiples barrières financières et linguistiques dans l'utilisation des applications IA. Plusieurs PSH ont mentionné ne pas pouvoir se permettre d'acheter un appareil intelligent et ainsi profiter des avancées technologiques proposées par l'IA. D'autres PSH ont indiqué que les applications d'IA ne sont pas encore aptes à reconnaître l'accent québécois. Que faire pour une IA plus inclusive et équitable? Nous avons pu obtenir des recommandations des personnes participantes à l'étude pour améliorer une utilisation plus équitable des applications IA pour les PSH. 1. Inclure proactivement les personnes avec différents types de handicap dès la conception, c'est-à-dire du développement, incluant la constitution des bases de données massives, au déploiement et jusqu'à l'évaluation des applications IA, tant en matière de recherche qu'au niveau de la mise en œuvre des produits. C'est une question éthique. 2. Améliorer l'accessibilité des interfaces et des applications IA pour les personnes avec différents types de handicap. C'est une question pragmatique et axée sur l'équité. 3. Recruter des PSH au sein des équipes de recherche et de mise en œuvre des applications et produits IA. C'est une question de diversité et d'inclusion. 4. Augmenter les incitatifs pour collaborer de façon intersectorielle et interdisciplinaire entre les secteurs de l'IA et du handicap. C'est une question de responsabilité pour un développement durable. À la lumière de ces résultats, nous avons un signal fort qu'il est temps non seulement de mieux examiner l'intersection entre l'IA et le handicap, mais que les acteurs du terrain, tant les experts en IA que les PSH elles-mêmes, sont prêts à collaborer plus étroitement pour une IA plus inclusive et équitable. C'était « Handicap et intelligence artificielle se nourrissent-ils mutuellement? » Un texte de Muriel Mac-Seng et Jean-Noël Nikiema, paru le 22 mai 2025 dans « La conversation ».
Vélo en ville, connaissez-vous les bons gestes à adopter? Un texte commandité, paru le 14 mai 2025 dans « La presse ». Le vélo est un excellent moyen de transport en ville, économique, écologique et souvent même plus rapide que la voiture. Néanmoins, pour rouler en toute sécurité, encore faut-il connaître et appliquer les règles de base. Petit rappel des bons réflexes à adopter lorsque vous pédalez en milieu urbain. Gardez une attention de tous les instants. En ville, les imprévus sont nombreux. Voitures qui freinent soudainement, portières qui s'ouvrent devant vous, piétons qui surgissent entre deux voitures, automobilistes qui oublient d'utiliser leur feu clignotant, nids de poules sur la chaussée. C'est pourquoi vous devez toujours être prêt ou prête à réagir en tout temps. Sachez d'ailleurs que l'usage des écouteurs, même dans une seule oreille, ou du téléphone intelligent, est interdit en roulant. Soyez visible de jour comme de nuit. Lorsque vous circulez à vélo en milieu urbain, assurez-vous d'être bien visible pour les autres usagers et usagères de la route. En plus des réflecteurs avant et arrière obligatoires, vous devez munir votre bicyclette d'un phare ou d'un feu blanc à l'avant et d'un feu rouge à l'arrière pour pédaler à la noirceur. Le port d'un dossard ou de vêtements réfléchissants est également recommandé. Cela augmente votre visibilité et permet aux automobilistes de vous apercevoir de plus loin. Signalez vos intentions. Avant d'effectuer un virage, vous devez signaler votre intention. C'est le Code de la sécurité routière qui le dit, à moins que la manœuvre ne mette votre sécurité en péril. Cela permet aux cyclistes et aux automobilistes qui vous suivent d'adapter leur conduite en conséquence. Pour signaler votre désir de tourner à gauche, placez le bras gauche horizontalement. Vous voulez indiquer votre volonté de tourner à droite? Placez votre bras droit horizontalement ou levez l'avant-bras gauche verticalement. Respectez la signalisation. Bien que certaines personnes semblent encore l'ignorer, les cyclistes doivent se conformer aux mêmes règles du Code de la sécurité routière que les automobilistes. Vous avez donc l'obligation de respecter les feux de circulation, même au moment d'un virage à droite au feu rouge, sauf s'il y a une signalisation spécifique à l'intention des cyclistes. Il vous faut également vous immobiliser complètement à un panneau d'arrêt, et ce, même si la voie est libre ou si vous roulez sur une piste cyclable. Faites preuve de prudence aux intersections. Redoublez de prudence plus particulièrement aux intersections. Assurez-vous notamment que les autres usagers de la route vous voient et surtout que vous ne vous retrouvez pas dans l'angle mort d'un véhicule. Essayez d'établir un contact visuel avec les automobilistes afin d'avoir la certitude qu'ils et elles vous aperçoivent. Au feu de circulation, placez-vous devant les voitures qui attendent le feu vert et méfiez-vous des autos qui tournent à droite, spécialement si le virage à droite au feu rouge est permis à cet endroit. Gardez vos distances avec les véhicules lourds. Redoublez de prudence lorsque vous croisez des autobus et des camions, car ils présentent de nombreux angles morts. Ne vous immobilisez jamais à droite ou à gauche d'un véhicule lourd, puisque son conducteur pourrait ne pas vous voir. Restez toujours bien en avant ou derrière et gardez une distance suffisante avec un tel véhicule. Par ailleurs, ne dépassez jamais ce dernier à l'approche d'une intersection. Dépassez de manière sécuritaire. Avant de dépasser une autre personne à vélo, que ce soit sur la rue ou sur une piste cyclable, assurez-vous que la voie est libre et que la manœuvre est sécuritaire. Pour ne pas surprendre l'usager qui vous précède, annoncez votre présence et votre intention de le dépasser de façon courtoise en l'avertissant verbalement, cycliste à gauche, par exemple, ou en utilisant une clochette. Pensez également à laisser une distance respectable lorsque vous doublez quelqu'un pour limiter le risque d'accrochage. C'était Vélo en ville. Connaissez-vous les bons gestes à adopter? Un texte commandité paru le 14 mai 2025 dans La Presse.
Le mois de la fierté, l'importance d'être vu et entendu. Une chronique de Justine Aymon parue le 22 mai 2025 dans le magazine Fugue. En juin, tout juste après le 17 mai, Journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie, nous soulignons le mois de la fierté. C'est à cette période de l'année que nous commémorons les émeutes ayant eu lieu contre notre communauté, principalement au Stonewall Inn en 1969, ainsi que les droits LGBTQ+ ayant été acquis. Ce moment, qui ressemble plus aujourd'hui à une célébration, était autrefois un moment de protestation pour notre communauté, pour l'inclusivité d'humains qui ne cadrait pas dans une société cis-hétéronormative. Ce mois est encore plus important aujourd'hui, dans une ère où l'on tente d'effacer notre existence. Nous nous devons d'être vus et entendus. Profitons-en pour rayonner encore plus fort, surtout après tout le travail fait depuis les 55 dernières années, afin qu'un retour en arrière ne soit pas possible. Il est toutefois possible de se sentir dépassé et de ne pas avoir l'impression que nos actions entraînent des répercussions sur les batailles en cours. Amplifions nos voix avec l'aide d'alliés qui sauront nous épauler, nous soutenir, parce qu'ensemble, le chemin à parcourir sera un peu moins ardu. Il suffit parfois de se concentrer sur de plus petits gestes au quotidien, mais qui auront, en bout de ligne, un grand impact. Par exemple, en tant qu'organisme LGBT+, au JAG, il est important pour nous que la diversité sexuelle et la pluralité de genre soient partie prenante dans les décisions prises. C'est pourquoi nous avons mis en place le projet MIC+, Municipalité inclusive aux communautés plus, qui est une certification municipale visant à ce que les municipalités soient de plus en plus inclusives, qu'elles deviennent des phares pour les individus et ou les familles qui cherchent un endroit sécuritaire pour y habiter. La notion d'intersectionnalité étant la pierre angulaire des maux de bien des individus, il était impératif de ratisser plus large que les communautés LGBT+, afin que tous puissent, minimalement, vivre dans un milieu où ils ne se sentent pas exclus. Au niveau individuel, il est intéressant de faire attention lorsque l'on fait des achats. Le mois de la fierté amène souvent les magasins à vendre des produits aux couleurs du drapeau arc-en-ciel que l'on peut avoir envie d'acheter, mais il est important de prendre le temps de s'informer à savoir si l'entreprise a un souci d'inclusivité à l'année ou si ce n'est que pour le mois de la fierté, comme malheureusement trop le font. Il est aussi nécessaire, lorsque c'est possible, d'encourager des artistes et des entreprises locaux qui engagent ou qui sont membres de la communauté LGBTQ+. Avec les violences auxquelles nous pouvons être confrontés quotidiennement, autant en milieu de travail, dans la rue et surtout sur les réseaux sociaux, l'action la plus importante de toutes est de prendre soin de vous et de poser des actions qui vous font personnellement du bien, parce qu'on l'oublie beaucoup trop souvent. C'était le mois de la fierté, l'importance d'être vu et entendu. Une chronique de Justine Aymon parue le 22 mai 2025 dans le magazine Fugue.
La Socan à 100 ans, un texte de Stéphane Baillargeon paru le 3 mai 2025 dans Le Devoir. La première mention du droit d'auteur apparaît le jeudi 27 avril 1911 dans le Jeune Devoir, fondé un an plus tôt sous la signature de Georges Pelletier. Le célèbre journaliste deviendra le deuxième directeur du journal à la suite du fondateur Henri Bourassa, poste qu'il occupera de 1932 à 1947. Le Canada entend adopter une loi de droit d'auteur conforme en ses grandes lignes aux termes de la Convention de Berne, dit son texte. Dorénavant, tout auteur canadien qui fera enregistrer ses ouvrages au ministère de l'Agriculture aura ses droits d'auteur toute sa vie durant. Et ses ouvrages ne tomberont dans le domaine public que 50 ans après sa mort. Cette mesure n'offre guère d'intérêt pour le grand public, mais elle en aura par contre beaucoup pour les auteurs canadiens, littérateurs, artistes, musiciens ou dramaturges. Il avait fallu des décennies pour que la colonie britannique accepte la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. Le jeune Dominion voyait dans l'accord international de 1886 une menace sur son secteur de l'imprimerie. La volonté de s'y conformer allait prendre une décennie à se matérialiser légalement ici avec l'adoption de la loi dite du copyright en 1921. La Société canadienne des droits d'auteur est née 4 ans plus tard, en 1925. Il s'agit de l'ancêtre organisationnel de l'actuelle Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, SOCAN, qui célèbre donc son 100e anniversaire cette année. La TOHU, à Montréal, accueille une grande fête dimanche pendant laquelle seront remis 100 trophées dans 29 catégories. Le long jeu des droits. Georges Pelletier avait vu juste. Les musiciens ont largement profité de ce qu'il appelait le libre-échange impérial des droits d'auteur. La SOCAN compte autour de 200 000 membres. En 2024, la société a récolté et redistribué pour plus d'un demi-milliard de redevances, résultat d'une augmentation de 17,5% en un an. La musicienne, Viviane Audet, est du nombre des bénéficiaires depuis une vingtaine d'années. Elle vient de sortir un nouvel album, Le piano et le torrent. Elle crée beaucoup de bandes originales pour le cinéma et la télévision. Il y a une machine bien huilée au-dessus de ma tête qui m'aide beaucoup, dit-elle. Quand Madame Audet achève une composition, elle se branche au portail de la société pour inscrire la pièce dans un genre classique, jazz, etc., lui donner un titre et un minutage. Elle peut aussi désigner ses collaborateurs. Un rapport de contenu musical permet de signaler les partitions fournies pour une émission de télévision ou un film, là encore en précisant la longueur de l'extrait et son utilisation, soit comme musique de fond, que les personnages n'entendent pas, soit comme musique visuelle, qu'ils entendent eux aussi. La suite repose sur des tarifs homologués par la Commission du droit d'auteur du Canada. Ce tribunal, instauré en 1989, géré par les membres de la SOCAN, détermine les frais d'utilisation des œuvres en fonction des moyens de diffusion. Le système éprouvé repose évidemment sur des moyens étendus pour suivre les diffusions à la trace partout, tout le temps. Ce serait quasiment impossible pour les artistes seuls de faire notre travail, résume Alexandre Alonso, directeur exécutif des affaires du Québec de la SOCAN. Aucun créateur ne pourrait aller frapper à la porte des radios ou d'un service de streaming pour essayer de négocier des paiements pour ses œuvres. Nous signons des accords bilatéraux avec une centaine de pays qui ont des systèmes de gestion collective pour garantir les versements des sommes dues. C'est que la société protège les droits des créateurs canadiens ici et à l'étranger et ceux des créateurs étrangers au Canada. Elle travaille avec des sociétés sœurs du monde entier. Quand une chanson de Charlotte Cardin, qui sera du gala dimanche soir, passe à la radio en France ou aux États-Unis, elle reçoit son dû. Madame Audet parle du Saint Graal quand ses pièces jouent sur les radios numériques satellites comme Sirius XM. Même les sonneries musicales empruntées à des compositions connues sont protégés par le droit d'auteur. Le piano et l'intelligence artificielle. La révolution numérique bouleverse ce monde. Le streaming musical multiplie les auditoires, mais divise les revenus. Sur différentes plateformes, l'opus « Les filles montagnes » de Viviane Audet inspiré de la tragédie de Polytechnique, cumule des millions d'écoutes, payées quelques sous chacune et quelques milliers de dollars au total. Je ne vois pas le streaming comme le diable incarné, dit-elle pourtant. C'est un moyen de découverte incroyable. Mon booker s'en sert aussi pour savoir quelle ville m'écoute et ensuite organiser un spectacle. En plus, personnellement, je serais bien menteuse de dire que je n'écoute pas de musique sur Spotify ou sur Apple. Mais j'ai aussi des tonnes de vinyles. Le développement de l'intelligence artificielle, IA, pose des défis encore plus fondamentaux. Les machines peuvent apprendre des créations humaines et reproduire du contenu plagié à volonté et à l'infini, aussi longtemps que les œuvres sont protégées par la durée légale du droit d'auteur. Leur utilisation exige une autorisation, explique le directeur Alonso. On sait que des entreprises d'IA ont utilisé certaines créations musicales sans permission. Elles ne sont pas censées ignorer la loi et elles doivent donc payer pour ces usages. L'IA n'a évidemment pas agi par elle-même. Ce n'est pas une entité spirituelle. Il y a des humains et un modèle d'affaires derrière tout ça. La SOCAN n'a cependant pas encore engagé de poursuites juridiques comme le fait le Monde du Livre au Québec. Pour l'instant, elle mise sur les balises légales comme il y a un siècle. La législation s'adapte, là encore comme en 1921. Le projet de loi sur l'intelligence artificielle et les données est mort au feuilleton, mais pourrait ressusciter avec le nouveau gouvernement libéral. Le Canada a étendu, le 30 décembre 2022, la protection du droit d'auteur à 70 ans après la mort du créateur, selon une nouvelle norme mondiale. La SOCAN s'en réjouit et souhaiterait maintenant discuter d'exceptions prévues à des fins équitables, en éducation, par exemple. Il est important de conserver le mécanisme d'autorisation et de compensation, dit le directeur. Il ne peut y avoir d'utilisation sans autorisation. On veut donc réduire les exceptions. Il n'y a pas d'intérêt à bloquer l'usage légal avec compensation. Notre objectif est de maximiser les redevances pour nos membres, pas d'empêcher l'utilisation de leur création. C'était « La SOCAN à 100 ans », un texte de Stéphane Baillargeon, paru le 3 mai 2025 dans Le Devoir.